Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Pâques est là et la grâce qui l'accompagne, l'occasion de se replonger dans ce tridium pascal et de relire ensemble les riches et nombreux discours et homélies du pape François. Mais l'actualité de l'Église dans le monde, c'est aussi la situation de l'Église au Sri Lanka, en Centrafrique ou au Venezuela. Tour d'horizon de l'actualité de l'Église universelle. Cette émission, donc, non pas un mercredi, mais un mardi, compte tenu des congés de demain, avec donc sur l'actualité de l'Église universelle, ce matin, avec en plateau Philippe Dazébrun, professeur d'histoire contemporaine à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
On vous remercie pour votre fidélité, puisqu'en plus, aujourd'hui, vous avez double tâche, puisque Nicolas Sonnez est actuellement en train de suivre le pape François en Bulgarie. Et comme je le disais avec humour ce matin avec à Isabelle O'Neill, on a la chance de l'avoir une fois par mois, mais on n'a pas encore de correspondant et de vaticaniste dans l'avion du pape. Ça viendra peut-être compte tenu de la générosité des auditeurs. On s'est dit qu'on allait commencer avec de prendre le temps de revenir sur ces célébrations de Pâques, sur la grâce de Pâques, puisque le temps pascal n'est pas fini, il court jusqu'à l'Ascension et à la Pentecôte, et de se replonger donc dans un certain nombre de discours, d'homélies du pape François et du diocèse. Ils sont nombreux. La première question d'introduction que j'aurais, c'est qu'il n'est pas fréquent de vivre d'une certaine manière le tridium un petit peu par procuration en étant un peu à Rome, Philippe Dazébrun. Quelle a été, à la lecture de ces homélies et discours, votre sentiment? Est-ce que le chrétien que vous êtes en a été, nourri, frappé?
Oui, le pape est un pédagogue. Et donc, en tant que enseignant, je dirais, à travers ses textes, il nous interpelle. Et il sait, à travers des images et en nous ramenant aux textes évangéliques, il sait nous interpeller. Et je pense à deux passages de ces discours et homélies, notamment lors de du Vendredi Saint, du chemin de croix, lorsque il dit que face à la misère humaine, nous sommes tous, avec notre pauvreté personnelle, parce que nous sommes tous pauvres en quelque sorte, eh bien, en rassemblant toutes ces pauvretés, nous arriverons à faire une richesse. Je pense que là, il y a quelque chose qui nous appelle à surmonter nos égoïsmes, et mon égoïsme personnel aussi, pour essayer de trouver avec les autres les ressources nécessaires à, au terrassement du mal, ou du moins à y contribuer. Ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième chose qui m'a beaucoup frappé dans les homélies du souverain pontife, c'est le Samedi Saint,
Lors de la veillée pascale.
Voilà, lors de la veillée pascale, lorsqu'il a parlé des pierres du péché, des pierres qui empêchent en quelque sorte notre chemin vers la croix et vers le Christ, vers la rédemption. Et il nous disait à nous tous, réfléchissez à vos propres pierres, n'est-ce pas ? Quelle est votre propre pierre à retirer en quelque sorte du chemin qui vous mène vers la croix et vers la rédemption. Et comment se nomme cette pierre? Alors, il donne quelques noms. Et je crois que, en nous incitant à regarder sur notre propre chemin, et il m'a aussi dit de regarder moi-même sur mon propre chemin et essayer d'écarter toutes les pierres qui m'empêchent d'aller vers le Christ.
Alors j'avais juste une question sur le pape pédagogue, parce que c'est vrai que c'est ce qui frappe beaucoup chez ce pape, c'est qu'on dit souvent qu'il a le sens de la formule, mais il y a plus que le sens de la formule, c'est ce qu'on entend quand vous dites que ce pape pédagogue. Vous qui êtes enseignant, on imagine que vous êtes aussi un peu pédagogue, qu'est-ce que vous y voyez en fait? Vous y voyez les traits de génie d'un maître spirituel d'abord, ou au contraire quelqu'un qui a l'art consommé de la formule? Qu'est-ce que ça évoque, ce sens, on va dire, d'une expression aussi percutante?
C'est un jésuite, donc il le reste. Je pense que la démarche du pape est celle d'une très grande et d'une profonde méditation des textes. Et à partir de cette méditation, il en tire la leçon, mais une leçon qui n'est pas uniquement théorique. Il essaie de rendre cette leçon accessible au cœur, pas seulement à l'intelligence, au cœur. Et pour que le cœur soit atteint, il faut qu'il y ait une image forte, une image qui vous remue. Et je pense que ce pape a cet art-là de transposer dans le cœur des hommes le texte évangélique dans ce qu'il a de plus, quelquefois, de plus difficile dans l'accès intellectuel. Et je crois que la vertu d'un pédagogue, c'est ça, rendre les textes accessibles en parlant aussi au cœur. Au cœur.
Alors si on commence, c'est moi qui vais commencer, on s'est partagé un petit peu la tâche. Je voulais commencer donc par l'homélie du pape François lors de la célébration du dimanche des Rameaux. Alors on revient beaucoup en arrière, mais je me suis dit que ça pouvait être riche. On s'est dit que ça pouvait être riche pour les auditeurs. Le pape François à cette occasion souligne le paradoxe en fait de l'entrée de Jésus, à la fois des cris festifs et l'acharnement féroce. Jésus nous montre comment affronter les moments difficiles et les tentations les plus insidieuses. Et il parle du triomphalisme qui cherche à atteindre le but par des raccourcis et des faux compromis. Et le pape François, cette occasion, on va dire, réenfonce le clou à propos de la mondanité spirituelle. Une forme subtile de triomphalisme est la mondanité spirituelle qui est le pire danger, la tentation la plus perfide qui menace l'Église. Ça, c'était pour le dimanche des Rameaux. Pour l'audience générale qui s'en est suivie, c'était donc le dimanche, donc le même jour. C'était quelques jours après, le 17 avril, pardon. Le mercredi, le pape François dit la chose suivante. Il parle de trois invocations dans cette liturgie, ou trois invocations de Jésus. Glorifie ton Fils. Dieu se manifeste. Il lève le dernier voile. La gloire de Dieu se manifeste. Dieu est tout amour. Il parle d'un Dieu paradoxal et il invite les chrétiens à se poser quelle question, cette question exactement comme vous avez souligné à propos du vendredi. Pour quelle gloire est-ce que je vie, pour la mienne ou pour celle de Dieu? Est-ce que je désire seulement recevoir des autres ou bien aussi donner aux autres? Et le pape François appelle aussi chacun à méditer à cette occasion sur ce cri que Jésus lance au cœur, on va dire, de l'abîme, Abba, en soulignant que c'est le moment où le Christ a le mot le plus, on va dire, le plus tendre à l'égard de Dieu, alors qu'il est au sommet de la déréliction. Si l'on continue cette semaine sainte, en souhaitant peut-être la messe chrismale, vous êtes penché, vous, Philippe Dazébrun, sur le chemin de croix, qui est souvent un moment important. On a souvenir, je pense entre autres ces derniers temps, fameux chemin de croix du pape Benoît XVI, où il avait parlé de la barque de Pierre qui prend l'eau, ayant conscience de toutes les affaires de pédophilie qui étaient au cœur de l'Église et qui après se sont révélées. Quelle était la teneur de ce chemin de croix de cette année?
Alors, ce chemin de croix a été mené par une religieuse qui s'appelle Sœur Eugenia Bonetti, religieuse italienne, qui est engagée contre la traite. Et ce chemin de croix a été une méditation extrêmement vigoureuse, très vigoureuse, et quelquefois en des termes très, pas du tout édulcorés, même crus à certains égards, pour dénoncer la misère, une certaine misère du monde. Et en particulier, une misère faite aux femmes. Elle a mis en exergue notamment, c'est un chemin de croix, donc effectivement, on est en plein dans ces drames personnels et collectifs, drames de nombreuses mères qui souffrent du fait que leurs enfants soient partis. Et là, on a en arrière-plan, bien sûr, toute la question des migrants, de ces hommes et de ces femmes qui quittent leur terre parce que il leur est fait violence ou violence de toute forme d'ailleurs, violence physique, violence aussi morale.
Enfin, la traite humaine, en effet, on en parle aussi beaucoup en Libye.
Bien évidemment, voilà. Bien évidemment. Alors, elle a cité notamment en exemple 26 Nigériens. Vous voyez, donc, c'était une méditation, mais qui n'était pas du tout éthérée, qui était aussi ciblée avec des cas particuliers que l'on pouvait identifier. Ça, c'est très, très important. C'est-à-dire qu'on ne parle pas à l'âme humaine à partir de concepts. On parle à l'âme humaine avec des cas particulier, une identification, une personnification. Si Dieu s'est fait chair, c'est aussi parce que l'homme peut dire quelque chose de lui-même à d'autres hommes. Et donc, elle a pris, pour exemple, 26 Nigérianes qui ont été, dit-elle, englouties par les vagues, c'est-à-dire voilà, des femmes qui ont quitté leur désert et qui, traversant mille et une épreuves, ont fini par périr hein, dans les eaux de la Méditerranée. Bon, elle a aussi parlé des enfants, des mineurs qui ont été maltraités ou qui sont livrés à la prostitution aussi, hein, y compris aux portes de Rome, ou alors de ces migrants que l'on enferme dans des camps d'hébergement qu'elle n'a pas hésité à appeler des camps de concentration.
Les camps de concentration.
Absolument. Donc on a eu une réflexion, je dirais, vigoureuse, extrêmement vigoureuse, qui nous rappelle à nos devoirs. Et du reste, toute cette méditation n'a pas été qu'un sombre tableau de notre temps actuel. Elle n'a pas oublié non plus de mentionner ce qu'elle a appelé les nouveaux Simon de Cyrène, car il y a tout de même des hommes et des femmes qui travaillent au sauvetage de toutes ces âmes qui sont apparemment perdues, en tout cas qui sont très malmenées par les autres et par leurs frères, en fait. D'où la réflexion que je faisais tout à l'heure, un appel à toutes les pauvretés, parce que nous sommes tous pauvres, pour s'unir afin de faire reculer le plus possible ce mal qui gangrène le monde.
Voilà, la traite humaine qui est, on va dire, comme la question de la migratoire, et vous dites en effet qu'elle est liée, qui est une intention qui revient souvent hein, dans la bouche du pape François. On a l'impression que pour lui, c'est vraiment un peu le paroxysme du mal aujourd'hui. Et c'était une intention récente du pape François. Chaque mois, il présente au monde entier, à toute l'Église universelle, une intention. Je crois que c'était une intention du mois de février, il me semble. Vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, le pape, en concluant ce chemin de croix, a demandé à ce que... en ce temps où nous regardons la croix du Christ, eh bien de regarder toutes les croix qui sont dans le monde, n'est-ce pas ? Et il en a regardé trois. Enfin, il a ciblé sur son regard sur trois croix. La croix que portent les petits, tous les petits, les blessés, les innocents, etc. La croix que portent les migrants, qui sont aussi des petits en quelque sorte. Et puis la croix aussi que porte l'Église. Et il a ce mot, l'Église, ton épouse, donc il s'adresse au Christ, qui se sent continuellement assailli de l'intérieur et de l'extérieur.
Voilà, donc c'était le vendredi saint. Au terme du chemin de croix, il y a eu un certain nombre d'énoncés et d'invitations à la prière. Je voulais en citer une ou deux autres que j'ai trouvées très belles. La croix des personnes qui n'ont pas le réconfort de la foi. Voilà, une manière d'inclure évidemment tous les hommes de bonne volonté. La croix de l'humanité qui erre dans l'obscurité de l'incertitude et dans l'obscurité de la culture de l'instantané. Le pape François qui en profite pour remettre les points sur la i. Et puis la croix des consacrés qui cherchent inlassablement à apporter ta lumière dans ce monde et se sentent rejetés, moqués et humiliés. On va se plonger maintenant donc dans l'homilie de la veillée pascale. Là, on va dire c'est du style pape François pur jus, si je puis me permettre d'être aussi trivial avec le pape François, où le pape François donc invite à se poser cette question. Vous avez souligné tout à l'heure, demandons-nous avant tout quelle est ma pierre à retirer, comment se nomme cette pierre. Un peu plus haut, il dit la chose suivante, il en est ainsi également dans l'histoire de l'Église, parlant donc de la résurrection, de ses promesses ou d'une attitude qu'on peut avoir. Et dans l'histoire de chacun de nous, il semble que les pas accomplis ne parviennent jamais au but. Le pape développe en fait une méditation invitant à... Enfin, partons du constat, exactement comme on peut le faire tout à chacun, c'est une réflexion en fait très populaire, hein. On constate des limites dans notre vie, on a l'impression de courir après un but et de ne pas arriver à l'atteindre, et le pape François, bon Jésus, nous renvoie la question, est-ce comme ça qu'il faut introduire cette homélie de la veillée pascale, Philippe d'Azébrun ?
Oui, moi je pense, c'est, effectivement, cette méditation sur nous-mêmes nous invite à, comme je le disais tout à l'heure, à identifier le chemin qui nous mène vers le Christ. Et finalement, notre vie, dit-il, se cogne quelquefois à ce qu'il appelle une pierre tombale. Voilà. C'est une méditation aussi sur le tombeau, hein, ce samedi saint. Et il nous met en garde. Il nous met en garde contre cette. Il appelle ça la psychologie du tombeau. C'est-à-dire le refus de l'espérance.
Nous sommes spirituellement malades. Dit-il.
Absolument. Et donc, c'est un appel, en quelque sorte, à une réflexion sur nous-mêmes, à une forme de méditation sur notre vie, avec ce refus qu'il nous faut opposer à la résignation et à l'échec, à l'instantané, comme vous disiez tout à l'heure, en effet, et en ciblant, n'est-ce pas, tout ce qui est mortifère pour l'espérance et pour les attentes de l'espérance. Alors, il parle de la mort, il parle bien évidemment du péché, il parle de la peur qui est terrible. Et il parle des mondanités, vous voyez, il revient là-dessus. Il a une forme d'obsession contre tout ce qui peut nous attirer vers le monde, tout en refusant l'essentiel, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Et on a là une réflexion qui est assez concrète, en ciblant des péchés, il en cible quelques-uns. Et notamment en nous incitant à travailler pour le ciel et non pas forcément pour soi-même.
Voilà, il est plus facile de rester seul dans les pièces obscures de notre cœur que de nous ouvrir au Seigneur, a-t-il dit. Un peu plus loin, il pose cette question, est-ce que je contemple des milieux sépulcraux ou est-ce que je cherche le vivant? Et un peu plus loin, parfois nous allons toujours et seulement vers nos problèmes qui ne manquent jamais. Et nous n'allons vers le Seigneur que pour qu'il nous aide.
Oui.
Si l'on devait, pardon,
oui,
y ajouter.
Et il montre combien cette foi doit être vivante, n'est-ce pas? Combien nous sommes appelés à vivre cette foi. Il dit à un moment donné, autrement, on a une foi de musée, non pas la foi pascale, vous voyez. Donc il incite vraiment chaque chrétien à se faire acteur de la bonne nouvelle et ne pas lire la bonne nouvelle comme il s'agirait de lire un texte de Platon ou de Descartes, mais au contraire de vivre ce texte et d'en être le témoin.
Oui, un autre passage, il dit « La foi a besoin de revenir en Galilée, de raviver le premier amour avec Jésus, son appel, se souvenir de lui, c'est-à-dire revenir de tout cœur à lui. »
Oui, et j'ajouterais, pardonnez-moi, j'ajouterais que il a lu ce texte, n'est-ce pas, du moins, il l'a vécu devant des néophytes. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que devant lui, il y avait des gens qui avaient fait une démarche de foi. C'est-à-dire que, voilà, à travers ce texte, il y avait aussi le témoignage d'un cheminement qui était là en train d'écouter le pape.
Pour finir, bénédiction Rubi et Orbi, qui est donc la grande bénédiction du dimanche de Pâques. Traditionnellement, le pape François, prend dans ses bras une dernière fois à l'occasion de ses fêtes pascales où on voit une bénédiction particulièrement à toutes les situations les plus pénibles du monde, preuve de l'attention de l'Église et surtout de l'espérance en fait de l'Église pour toute situation. Donc là, il a commencé par le peuple syrien, le bien-aimé peuple syrien, victime d'un conflit qui perdure et qui risque de nous trouver toujours davantage résignés, même indifférents. Il a parlé du Moyen-Orient, du Yémen, d'Israël et de Palestine, de la Libye, du continent africain. Une longue énumération. Qu'est-ce que vous avez noté de particulier à propos de cette bénédiction Urbi et Orbi, Philippe Dazébrun?
Oui, on a l'impression d'une litanie, des membres souffrants du monde, en quelque sorte. Vous avez parlé de la Syrie, du Liban, du Yémen, de Israël et Palestiniens. Il a parlé aussi du Soudan pour lequel il travaille, du reste, puisqu'il y a eu une retraite au Vatican des responsables politiques afin de pacifier cette zone-là du monde. Il a parlé de l'Ukraine, du Venezuela. Voilà. Donc, mais il a aussi ciblé quelques pays européens, notamment la France, hein. Ce discours Urbi et Orbi est arrivé au moment où on apprenait que des armes françaises étaient utilisées dans le conflit au Yémen. Et il appelle à ce que le Christ inspire les gouvernants des nations afin qu'ils s'engagent à mettre fin à la course aux armements et à la diffusion préoccupante des armes. Donc, je dirais que les Français en ont pris aussi pour leur grade. Et puis, il appelle aussi, et ça c'est très important, me semble-t-il, dans cet arrière-plan de campagne, me semble-t-il, électorale européenne. Il appelle chacun à être des constructeurs de ponts et non pas de murs. Et je pense que, enfin, on le sait, la campagne italienne est très menée aujourd'hui par des forces nationalistes. Elle est du reste aussi dans d'autres pays européens. Je pense que le pape appelle à la paix et non pas à l'érection de ces murs qui sont forcément des signes de peur et donc de guerre à venir.
Voilà, bénédiction pleine de tendresse mais musclée comme le pape François sait le faire. On va faire une première pause et puis on va vous retrouver pour parler du Sri Lanka après ces terribles attentats de Pâques et de la République centrafricaine. L'actualité de l'Église universelle, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour ceux qui nous prendraient en cours de route, nous sommes ce matin avec Philippe Dazébrun, professeur d'histoire contemporaine à l'Institut catholique de Toulouse. Et voilà, fidèle à ce rendez-vous. Et Nicolas Senez, exceptionnellement, n'était pas disponible puisqu'il est dans l'avion. En tout cas, il est en Bulgarie et il accompagne la délégation de journalistes qui suit le pape François qui est actuellement dans ce pays d'Europe. On s'est dit donc qu'on allait revenir sur le Sri Lanka. On en a parlé à cette antenne, mais probablement trop rapidement. Et puis depuis, il y a eu quand même un certain nombre, on va dire, de développements ou de suites à cette terrible série d'attentats, donc qui ont frappé le Sri Lanka le dimanche de Pâques, faisant donc près de 300 morts et 500 blessés dans des grands hôtels de ce pays et dans un certain nombre d'églises. Donc des bombes ont explosé, attentats qui ont été revendiqués donc par l'État islamique. Je commencerai juste ce propos par des extraits de la lettre du pape François qu'il a adressée à ce peuple et particulièrement donc aux chrétiens du Sri Lanka, qui a été lu par le cardinal Ranjit, cardinal archevêque de Colombo, si je ne me trompe pas, disant que le pape prie le Seigneur pour que des cœurs endurcis par la haine puissent céder à sa volonté de paix et de réconciliation entre tous ses enfants. Et un petit peu plus loin, j'en citerai d'autres passages, le pape François qui invite à choisir, on va dire, la paix envers et contre tout dans une situation aussi terrible. Qu'est-ce que vous voudriez dire pour commencer sur le Sri Lanka, Philippe Dazébrun?
Oui, c'est une histoire assez dramatique, mais je crois qu'il faut la replacer dans un contexte. D'abord, un contexte religieux. Nous avons là un pays qui est à majorité bouddhiste. Il y a à peu près 21 millions d'habitants, et sur ces 21 millions d'habitants, vous avez 70% à peu près de bouddhistes. Vous avez 12% d'hindouistes, 10% de musulmans et 7% de chrétiens. Voilà. Donc on a une minorité chrétienne, des catholiques d'ailleurs dans cette minorité chrétienne qui sont perçus comme quelquefois un ciment. C'est-à-dire qu'on voit bien que comme ils sont dans une position médiane entre les Tamouls qui sont hindouistes et les Cingalais qui sont bouddhistes, ils sont quelquefois le moyen du dialogue. Mais ils sont aussi perçus comme des gens qui, dénonçant les violences, peuvent être, partisans d'une force internationale qui vient se mêler des affaires intérieures. Donc on peut là voir certaines explications. Au-delà de cela, lorsque le Sri Lanka est devenu indépendant, c'est-à-dire finalement après la Seconde Guerre mondiale, hein, le Sri Lanka c'était le Ceylan autrefois, c'était donc une colonie britannique, ce sont les bouddhistes qui ont pris le pouvoir. Et prenant le pouvoir, ils l'ont bien pris, je dirais. C'est-à-dire qu'ils ont mené une politique qui allait vers une exaltation du modèle cingalais et avec l'imposition d'une langue officielle, ce qui a fait naître un courant sécessionniste dans la minorité hindouiste. D'où une explosion, je dirais, identitaire du côté hindouiste et une guerre civile qui, de 1983, si mes souvenirs sont bons, a duré 26 ans. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays qui a connu pendant plus d'un quart de siècle une guerre civile avec des atrocités absolument épouvantables, n'est-ce pas, et financée par la diaspora. La diaspora tamoule qui a beaucoup aidé à financer la guérilla.
Donc ça veut dire que c'est un pays qui est habitué à de très grandes violences.
Oui, très grandes violences. On a pas lésiné devant des moyens épouvantables comme l'utilisation d'enfants soldats.
La torture aussi, j'ai lu que la torture du coup était encore aujourd'hui largement pratiquée par le gouvernement actuel.
Oui, et alors si vous voulez, ces deux entités que sont d'un côté les bouddhistes et de l'autre côté les hindous, s'en sont pris aussi aux minorités, c'est-à-dire que les musulmans ont également été les victimes de cette guerre, notamment perpétrée par les hindous. Donc on a, je dirais, un climat de violence qui dure depuis 30 ans et qui aujourd'hui se retourne contre les catholiques.
Alors c'est vrai que la question qui vient comme ça, c'est qu'on a l'impression du coup que c'est une que l'attentat qui a été perpétré ne concerne pas tant la situation, on va dire, politique interne, mais c'est une manière pour lui de faire un exemple quelque part dans le monde, c'est ça?
Je crois que on n'en a pas terminé avec Daesh. À la vérité, alors on entend M. Trump claironner et fanfaronner en disant que Daesh s'est terminé, mais il ne faut absolument pas le penser. Il est peut-être terminé effectivement sur le terrain, mais partout ailleurs, il y a des je dirais, des cellules qui dorment et qui vont se mettre en action. Je crois qu'il faut être lucide sur l'avenir. Et là, même si au Sri Lanka, on compte à peu près, d'après ce que j'ai pu lire ici et là, 140 à 150 activistes islamistes, eh bien, vous voyez que ces 140 ou 150-là peuvent perpétrer des attentats abominables et qui relèvent de l'inhumanité.
Voilà, c'est donc un mouvement islamiste local qui serait à l'origine de ces attaques suicides. Le NTJ, en tout cas preuve donc de cette troisième guerre mondiale par morceaux, hein, dont parle souvent le pape François. On finira peut-être le Sri Lanka avec à nouveau cet extrait de la lettre du pape François au peuple Sri Lankais. Avec les adeptes de toutes les religions et les hommes et les femmes de bonne volonté du monde entier, j'exprime l'horreur de cette offense sans nom contre le saint nom de Dieu et je prie pour que les cœurs endurcis par la haine puissent se soumettre à sa volonté, paix et réconciliation entre tous ces enfants. On s'est dit maintenant qu'on allait parler de la République centrafricaine. Alors là aussi, on va dire que c'est pas gay, loin s'en faut, mais en même temps, c'est aussi la sollicitude de l'Église hein, qu'on voit à travers sa sollicitude et son courage hein, qu'on découvre à travers cette émission. J'ai souvenir, on a parlé de la République démocratique du Congo, on a parlé des Philippines, en bien des pays dans le monde, on trouve l'Église, on va dire comme le dernier rempart en fait, presque au chaos. Est-ce que c'est pas ce qu'on pourrait dire en introduction à propos de la République centrafricaine, où l'Église est la cible de violence parce qu'en fait elle est la dernière peut-être à tenir le pays, Philippe Dazébrun?
Oui, exactement. Ça, c'est effectivement un signe heureux que nous envoie dans le grand malheur qu'il affecte l'Afrique. Nous avons là un pays qui a sombré depuis 2013 dans un véritable chaos que l'on peut identifier. Hein. On a finalement un pays qui est en proie à des luttes de groupes armés, de mercenaires, n'est-ce pas, de groupes rebelles qui commettent toutes les exactions possibles, allant des impôts, des rackets, etc., des incendies de sites, de séquestrations, de viols, enfin de tortures, d'exécutions sommaires. On est vraiment dans la barbarie la plus atroce. Et tout ceci sur fond de trafic d'armes, de porosité de frontières avec des mercenaires et une Église qui, comme le dit le président de la conférence épiscopale de la République centrafricaine, une Église qui essaie d'être le porte-parole des sans-voix. Et d'essayer de pacifier ce pays qui est à feu et à sang. Et par le fait qu'elle apporte une parole de paix, l'Église est la proie des exactions de ces groupes qui, bien évidemment, l'Église, là, est un trouble-fête, si je puis dire. Et je vous rappelle le 1er mai 2018, il y a un an à peu près, où il y a eu une attaque d'une paroisse, Notre-Dame de Fatima, où 16 chrétiens, dont le curé, ont été tués par ces groupes rebelles. Donc on a vraiment un climat délétère au possible. Et les évêques, dans ce climat, essaient de rendre raison, je dirais, notamment aux pays voisins. Car les pays voisins amènent des forces rebelles. Hein. Oui.
Des mercenaires, en fait.
Voilà, exactement. Alors, on a les
Soudanais. C'est un pays qui est en proie au pillage, en fait. Hein.
Absolument.
Il faut dire, donc, j'apporte une ou deux précisions à votre propos. Donc, pays de 600, plus de 620 000 km², plus de 4 millions d'habitants. Et en fait, l'État est devenu un État fantôme depuis donc, que le pouvoir a été donné en 2014 à un certain Catherine Zamba Panza, qui, je crois, n'est plus au pouvoir. Mais bref, en fait, l'État ne contrôle plus rien. C'est un pays qui est en proie au pillage de groupes armés et rebelles.
Voilà, et qui viennent du Soudan, du Tchad, du Cameroun, du Nigeria, et qui, voilà, nous sommes en pleine prédation. Surtout que nous sommes aussi dans un pays où il y a de l'or, où il y a des diamants, où il y a des richesses, hein, il y a de l'uranium, et potentiellement, semble-t-il, du pétrole. Donc, mais enfin, ça ne concerne pas les groupes rebelles dont je parle, qui sont beaucoup plus rudimentaires dans leurs attaques et dans leurs prédations. Et l'Église, dans cette circonstance, essaie de calmer le jeu, d'appeler à la raison les pays voisins et surtout de protéger les populations.
Voilà, les évêques donc qui demandent la coopération des États africains. Nous rendons hommage au contingent de la MINUSCA, qui est donc, si je ne me trompe pas, la force de coopération internationale ou locale africaine de maintien de la paix locale, qui brille par leur professionnalisme dans la protection des populations civiles. Et les évêques donc qui appellent aussi l'ensemble des leaders religieux qui appellent à une mobilisation. Et en l'occurrence à une enquête internationale autour d'attentats qui ont lieu en automne dernier. Oui, vous l'y ajoutez, pardon ?
Oui, moi je voudrais quand même dans ce tableau qui est assez épouvantable, relever la figure de l'archevêque de Bangui, qui est, alors je ne sais pas comment on prononce ce nom, c'est un peu compliqué, le cardinal Nzapalainga, qui dans ce chaos, n'est-ce pas, a entrepris une tournée pastorale de près de 1300 kilomètres, quelquefois dans des circonstances absolument rocambolesques. On parle d'odyssée même, puisqu'il lui est arrivé dans... Il n'y a pas de route, hein, ce sont des pistes complètement chaotiques. À un moment donné, sa voiture a fait une sortie de route. Elle s'est couchée littéralement. Il est sorti indemne de cette affaire avec ses compagnons de voyage. Et il va visiter les communautés religieuses qui n'ont pas vu un prêtre depuis des années. Il est allé notamment à un endroit où il dit depuis 10 ans, les fidèles n'ont pas reçu de confirmation. Voilà, c'est un pasteur, un véritable pasteur qui a un appel effectivement à la richesse de chacun pour essayer de trouver des solutions dans un pays où il y a un dénuement absolu. Il faut faire quelquefois plusieurs heures pour trouver un dispensaire, et quelquefois il n'y a pas de médecin. Il y a des infirmiers qui veulent bien traiter les questions, mais enfin qui sont complètement démunis. Et voilà un homme qui... apporte le Christ à ces populations qui sont désespérées pour quelques-unes. Et dans ces perspectives, il a été à l'origine de la création d'un centre de rénutrition thérapeutique d'enfants mal nourris. Et il y a donc, vous voyez, dans ce pays enténébré, il y a quand même des lueurs d'espérance qui viennent d'ailleurs aussi de Rome, du Saint-Siège, puisque
la Caritas est très active aussi.
Voilà, absolument. Oui. Et ce nouveau centre là thérapeutique a été notamment financé, construit grâce à l'hôpital du Bambino Jésus, hein, l'hôpital pour enfants du pape.
On peut peut-être finir en évoquant l'accord de paix qui a été donc ratifié à Khartoum. C'était donc le 6 février dernier entre donc le gouvernement et les groupes rebelles, mais on ne sait pas trop en fait quelle est la teneur de l'accord, Philippe Dazébrun.
Oui, en effet. Alors, ce qui est quand même souligné par la conférence épiscopale, c'est que la population ne veut pas d'amnistie. Elle est très attachée, et d'ailleurs les évêques aussi, sont très attachés à ce que justice passe. Et je ne crois pas que ce soit très audible aujourd'hui.
Voilà, il y aura encore beaucoup de choses à dire, entre autres l'implication donc des gouvernements ou des grandes puissances occidentales dans ce pays, puisque les évêques parfois laissent entendre que il pourrait y avoir une forme de complicité de certains États. On les citera pas parce que on n'a peut-être pas assez travaillé le sujet. Je finirai en citant à nouveau les évêques de ce pays, de la République centrafricaine. Les conséquences du péché sont nombreuses dans nos maisons, nos rues, nos pays. Elles s'appellent agressivité, indifférence, pillage, marginalisation, etc. En tant que chrétiens, le Christ nous exhorte à participer à sa mission de libération totale de l'homme, en commençant par les plus pauvres, les plus abandonnés. Voilà une église en tout cas vraiment profondément exemplaire. On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour finir cette émission en parlant rapidement du Venezuela et un petit peu quand même de Notre-Dame de Paris.
Le vent porte à mes lèvres un goût de ciel d'été. Le souvenir d'un rêve que j'ai pas oublié. Le vent porte à ma bouche un goût de liberté. Comme une aube nouvelle, un nouveau jour. À partager
connu des printemps, j'ai connu des hivers. J'ai oublié le temps, j'ai oublié les heures. J'ai couru pour du vent, j'ai parcouru la terre. J'ai cherché bien longtemps pour trouver dans mon cœur un amour plus grand que tout. Souffle les vents, hissez les voiles. Voici le temps de partir plus loin. Souffle les vents, brille l'étoile. Que je veux suivre au rendez-vous de mon destin. Oh, de mon destin. J'ai parcouru encore toutes les mers. J'ai pas connu tous les ports ni tous les travers. J'ai perdu bien des batailles pour gagner des chimères. J'ai vécu les grisailles, j'ai vu la misère. J'ai connu des trésors de vie, de lumière. J'ai pas perdu ni mon corps ni mes repères. Souvent je suis tombé, j'ai mordu la poussière, mais je ne veux plus regarder en arrière. Souffle les vents,
souffle les vents,
hissez les voiles,
hissez les voiles.
Voici le temps,
voici le temps
de partir plus loin.
Partir plus loin.
Souffle les vents,
souffle les vents,
brille l'étoile,
brille l'étoile.
Que je veux suivre au rendez-vous. Je veux suivre au rendez-vous de mon destin. Oh, de mon destin.
Présence à Aspé 94.1.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'actualité de l'Église universelle, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, pour ceux qui nous rejoindraient, ce tour d'horizon mensuel où on revient sur l'actualité du pape François et sur, on met un coup de zoom sur certaines, on va dire, certaines réalités d'Église dans le monde, afin de, voilà, d'élargir nos horizons. Un petit mot peut-être juste à propos du Venezuela, c'est moi qui en ai la charge, pour faire écho donc ce qui était dit dans le journal de 9h, le 30 avril dernier, donc un groupe de militaires s'est insurgé au Venezuela, contribuant à la libération de Juan Guaido, qui est donc le principal opposant politique au président Maduro. Voilà, affrontements qui ont donné lieu à un certain nombre de morts, à des manifestations importantes le 1er mai dernier. Le président Maduro qui a appelé à châtier les traîtres, et surtout donc le 30 avril dernier, une église a été attaquée par les forces gouvernementales, et les évêques du Venezuela ont dit la chose suivante: cet événement est extrêmement grave et constitue une attaque contre l'Église catholique. Les évêques du Venezuela qui ont aussi appelé les membres des forces de sécurité et les groupes autoproclamés au respect à la garantie des droits de l'homme, à la cessation irrévocable de l'utilisation criminelle de la force pour contrôler les manifestations et la libération des détenus. Et donc de ce pays, là aussi, hein, Philippe Dazébrun, c'est le Venezuela, est une autre illustration. Il y en a en fait beaucoup plus qu'on ne croit, qui échappe presque parfois au radar de l'actualité, où l'Église est prise pour cible. Et là, l'Église est en train de contribuer à un changement de gouvernement, tout simplement.
L'Église, à partir du moment où elle apporte la paix et que vous avez plutôt les forces contraires qui s'opposent à la paix, forcément, l'Église est une cible. Et de toutes les façons, l'Église ne peut qu'apporter la paix. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas intérêt à ce que la paix soit établie ont tout intérêt à être les ennemis de l'Église.
Vous vouliez dire quand même un mot de Notre-Dame de Paris. Je trouve qu'il est toujours bon de demander en fait à ceux qui sont habitués à cette antenne d'avoir leur point de vue, parce que c'est aussi riche de tous ces points de vue qu'on essaie de cerner un peu cet événement. Et puis on va dire le temps long, c'est le temps aussi du discernement pour les chrétiens. C'était donc le 15 avril dernier, hein, pour rappel, Notre-Dame de Paris, sa charpente et son toit donc ont brûlé. On a parlé souvent de ces 21 hectares de forêt qui ont brûlé devant les yeux du monde entier. Et cette déclaration d'Emmanuel Macron, président de la République, cette cathédrale, nous avons su l'édifier, la faire grandir, l'améliorer, nous la rebâtirons tous ensemble parce qu'elle est une part du destin français. Comment vous avez pris cet événement, Philippe Dazébrun ?
Je dirais trois choses. La première, je crois que la Notre-Dame de Paris revêt une dimension éminemment culturelle. Elle s'inscrit, Notre-Dame de Paris s'inscrit à la fois dans l'espace et dans l'histoire. L'espace parce que depuis que ces murs ont commencé à s'élever, elle fait partie du panorama parisien. Tous ceux qui sont allés à Paris sont allés à Notre-Dame de Paris. Bien, premier point. Elle s'inscrit aussi dans l'histoire, c'est-à-dire que ça, on l'a dit et redit, c'est-à-dire que on a eu des couronnements ici, et dans une dimension pas que française du reste. Voilà pourquoi l'international a été touché. Je rappelle quand même que le couronnement de Henri VI, roi d'Angleterre, a eu lieu là. Il n'y a pas eu que le sacre de l'empereur des Français, Napoléon Ier. Il y a eu aussi des mariages internationaux. Marie Stuart, reine d'Écosse, s'est mariée à Notre-Dame de Paris. Philippe II d'Espagne, avec Élisabeth de France, s'est mariée à Notre-Dame de Paris. Donc il n'y a pas que le national qui doit être concerné, il y a aussi la dimension internationale. Sans parler du fait que des papes sont venus à Notre-Dame de Paris, les derniers étant Jean-Paul II et Benoît XVI. J'espère que le pape François viendra un jour en France. Il est attendu.
Il est invité en tout cas.
Ah, oui. Donc on a quand même une dimension qui n'est pas que nationale, elle est aussi internationale. Ça, c'est le premier point. Et avec une dimension qui est culturelle.
Vous aviez après quelques réserves sur la redécouverte de l'âme chrétienne de la France.
De là, je dirais, il y aurait deux remarques. La première, cet incendie nous montre que rien n'est pérenne. Et nous, là, je vous renvoie à Paul Valéry, toutes les civilisations sont mortelles. Voilà un bâtiment qui était là depuis à peu près 10 siècles et qui, en une nuit, a failli disparaître. Voilà. Quelle assise que ces siècles garantissent finalement à notre temps d'aujourd'hui. Eh bien, on voit bien qu'il y a une précarité de l'assise millénaire. Premier point. Deuxième point, beaucoup, j'en ai entendu, sont dit, voilà, avec l'émotion que cet incendie a suscité, la France montre bien qu'elle est chrétienne. Moi, j'en doute beaucoup, hein. Je crois que effectivement, cet incendie a parlé à quelque chose des Français qu'ils ont en eux-mêmes, je veux dire, mais qui ne relèvent pas forcément de la foi. Ce n'est pas parce que Notre-Dame de Paris brûle que nous allons voir les églises se remplir.
Mais on peut avoir conscience que le fond de notre âme a des racines chrétiennes.
Ça, oui. Ça oui, mais se sentir un vieux chrétien et être un chrétien en acte comme nous appelle à l'être le pape, je crois qu'il y a une marge. Je pense que là, nous sommes dans la foi de musée. On n'est pas dans la foi vivante. Donc, je crois qu'il faut avec le temps se garder de l'émotion et garder raison et voir les choses sur la longue durée. Et je pense que là, nous sommes, comme toujours, dans l'émotion, donc dans un peu dans un leurre. Enfin, je dirais la troisième chose que nous apprend cet événement tragique, c'est que c'est la générosité, ce que nous apprend ce moment, c'est la générosité que peuvent avoir les Français à l'égard d'une cause. Et quand on voit le mouvement des Gilets jaunes et autres, et le caractère rétif que peuvent avoir nos concitoyens à l'égard de l'impôt, on voit bien que, et ça c'est une leçon, n'est-ce pas, pour ceux qui nous gouvernent, qu'à partir du moment où il y a identification du but, qu'il y a légitimité en quelque sorte de l'action du don, eh bien il y a assentiment. Assentiment de l'impôt, assentiment de la contribution. Et Notre-Dame de Paris nous révèle cela. C'est-à-dire que les Français sont des êtres généreux. Mais encore faut-il qu'on leur dise pourquoi il faut être généreux.
Au moment de la Révolution française, c'est vous l'historien, hein, mais il y avait aussi une histoire d'impôts, non ? De charges trop importantes qui pesaient sur les Français, non ? Je me trompe pas ?
Oui, c'est-à-dire que la France était en faillite, ça nous rappellera d'autres choses, et il fallait convoquer les États généraux pour trouver les moyens de renflouer les caisses de l'État. Bon, on a essayé de trouver d'autres solutions, et puis on est parti sur d'autres considérations.
Pour finir, puisqu'on est un petit peu plus large que d'habitude, peut-être en une bonne minute, vous aviez une remarque, Philippe Dazébrun, c'est peut-être l'intérêt de ce type d'émission, de remettre en perspective notre quotidien ou la situation française.
Oui, moi je pense que, alors je suis invité à cette émission depuis le début de l'année, et je dois vous avouer que je n'ai pas pour vocation de m'intéresser forcément à l'international, puisque je suis essentiellement un historien de la France et quelquefois un peu du Royaume-Uni, mais pas de l'international. Et j'avoue que, un, se plonger dans l'international et deux, dans l'actualité, ce qui est un paradoxe pour un historien français, me permet de mesurer combien nous sommes en France des êtres, je dirais, bénis, en quelque sorte, de la Providence. Parce que nous vivons en paix, nous avons un relatif confort de vie, et lorsqu'on regarde le chaos extérieur, n'est-ce pas, ce monde accaparé en proie à toutes les misères, la guerre, la pauvreté, la réduction à l'état d'esclave, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, on se dit que la France, quand même, est un pays béni des dieux. Et on peut, au regard de l'étranger, mesurer la chance que nous avons.
Voilà, le prix de la paix, c'est peut-être ce qu'on pourrait retenir de votre intervention. Merci beaucoup, Philippe Dazébrun, d'être venu et d'être fidèle à ce rendez-vous. En plus, vous aviez la charge lourde aujourd'hui en l'absence de Nicolas Senez, mais pour notre dernier rendez-vous de l'année, je crois qu'il sera fidèle au poste. Je suis pas sûr qu'il y ait de voyage pontifical à ce moment-là. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Rémi Souloumiac. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.